Oui, Père Céleste, nous voici devant toi ce soir pour t'adorer, pour te glorifier et pour te rendre un culte raisonnable à toi. Père, tu es celui qui nous a convoqués ici. Ta parole nous dit que là où deux ou trois sont assemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Tu es le Dieu qui connaît toutes choses, qui a planifié le moment que nous vivons. Tu connaissais, Seigneur Dieu, chaque personne qui serait ici présente ce soir. Et tu as donné rendez-vous à chacun d'entre nous. Tu as également une parole pour chacun d'entre nous. Nous voulons tout simplement nous placer, Seigneur Dieu, sous ta protection, sous ta bonne conduite, sachant que ta parole ne faillit jamais. Je me mets également à ta disposition, Seigneur, afin que la parole que nous allons partager ensemble ce soir puisse toucher nos cœurs et nous rapprocher encore plus proche de toi. Merci, Père, pour ta présence. Pour ta gloire et ton honneur, nous te prions. Amen. Merci. Je vais vous inviter à rester encore debout quelques minutes. Question de lire le texte qui va nous servir de point de référence pour notre méditation de ce soir. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Hébreux, le chapitre 4. Et nous allons lire les versets 14 à 16. L'Épître aux Hébreux, chapitre 4, versets 14 à 16. Et je lis pour vous. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté, comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Merci, vous pouvez vous asseoir. Notre passage de ce soir, j'ai l'habitude de dire quand Dieu met place dans mon cœur un message qui n'est pas un message assez lourd à supporter, parce que des fois c'est le cas, mais quand c'est un message de réconfort, un message de douceur, un message d'espoir, mais on se sent un peu plus libre, on se sent un peu plus léger de partager ce genre de messages-là. Et je crois que notre méditation de ce soir cadre également avec ce genre de sujet. S'il y a un livre dans la Bible que je préfère, c'est l'Épître aux Hébreux. Tant pour la clarté du message, mais aussi pour la profondeur du message concernant les attributs de notre Seigneur Jésus-Christ. Ici, on voit un attribut qui nous donne une assurance certaine, qui nous donne un espoir. Et l'attribut de Jésus comme étant sacrificateur nous dit non seulement on a accès au trône de la grâce, mais on peut s'approcher de lui pour avoir le soutien nécessaire, pour avoir le secours nécessaire lorsque nous passons à travers des épreuves, lorsque nous connaissons des moments difficiles. Si vous connaissez des moments difficiles, c'est le temps de prendre de l'espoir. Parce que notre méditation de ce soir nous dit, nous avons un souverain sacrificateur qui est capable de compatir. Et il termine pour nous dire, c'est le temps de nous approcher de lui pour avoir le soutien dont nous avons besoin. Alors, pour aller plus loin, ce que je vais vous proposer ce soir, c'est de regarder ce texte-là, morceau par morceau, et par la suite, on va regarder quelques récits des personnes qui sont tournées vers Jésus pour être secourues dans leurs besoins, dans leurs difficultés, et pour voir quelles ont été les réponses obtenues. Le premier verset nous dit, « Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu. » Dans un premier temps, on va regarder ce petit bout de texte en nous concentrant sur le grand souverain sacrificateur, le fait qu'on nous dise que ce souverain sacrificateur a traversé les cieux, et on va regarder également l'appellation « le Fils de Dieu ». Si dans les évangiles, Jésus est représenté comme le Messie, le Christ, le Roi, l'Épître aux Hébreux nous parle d'une autre appellation. L'Épître aux Hébreux nous dit que Jésus est le grand souverain sacrificateur. On trouve ce thème non seulement dans le verset 14 qu'on vient de regarder, mais on trouve également le même thème dans le deuxième chapitre de l'Épître aux Hébreux, le verset 17. Le mot sacrificateur qu'on voit ici, c'est le mot grec, akerus, qu'on trouve environ 122 fois dans la Bible. Essentiellement, on voit ce mot plus dans les évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean, et on le voit aussi dans le livre « Les actes des apôtres » de Luc. Mais la différence entre les fois où on trouve ce mot dans les évangiles, dans le livre des actes, comparativement avec l'Épître aux Hébreux, c'est que l'Épître aux Hébreux fait le point de référence, met l'accent surtout sur le fait que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Alors que les autres livres, lorsqu'on parle, on peut mentionner un sacrificateur ou un grand souverain sacrificateur, mais l'Épître aux Hébreux fait le lien direct que Jésus est le grand souverain sacrificateur. Qu'est-ce qu'un sacrificateur? Un sacrificateur, c'est un médiateur. C'est quelqu'un qui, dans ses responsabilités, s'occupe de garder la relation entre le peuple avec Dieu, cette relation-là vivante, de faire en sorte que le peuple ne s'éloigne pas de Dieu, de toujours garder cette relation-là, cette communication-là entre le peuple et Dieu. Le sacrificateur, c'est également une personne qui a une consécration, qui a le mandat qui fait le sacerdoce. Sa fonction, c'est le sacerdoce, c'est d'exercer ce ministère-là, c'est d'exercer ce boulot-là de sacrificateur. Donc, on appelle cela le sacerdoce. Dans l'Ancien Testament, on voit que l'ensemble des sacrificateurs, mais on voit aussi que les sacrificateurs pouvaient se réunir entre eux et décider de choisir un grand sacrificateur, un grand souverain sacrificateur. Cette personne-là avait également la responsabilité de rentrer dans le lieu très saint le jour de l'expiation. Donc, lors des fêtes de l'expiation, le peuple était dans le parvis, à l'extérieur dans le temple, mais la personne qui avait la responsabilité de rentrer dans le lieu très saint pour aller verser le sang des offrandes sur l'âge de l'Alliance, eh bien, cette tâche-là était réservée au grand sacrificateur. Cette personne-là le faisait pour un but. Le but, c'était d'obtenir un pardon pour le peuple. Les péchés, à ce moment-là, n'étaient pas pardonnés. Les péchés étaient tout simplement couverts. Cette personne-là, dans son boulot, c'était une fois par année de rentrer dans le lieu très saint et de faire cette fonction-là. Mais on va voir aussi notre Seigneur, Jésus, considéré comme le grand sacrificateur, a une fonction similaire, pareille, pour faire cela. Jésus comme grand souverain sacrificateur, si on regarde l'épître aux Hébreux, le chapitre 5, le verset 6, et on voit également cela dans Hébreux chapitre 6, le verset 20, on dit que notre Seigneur avait le sacerdoce, était un grand sacrificateur, à la manière de Melchisédek. Pourquoi on fait cette référence-là? Si on se rappelle, Melchisédek, c'était ce roi-là de Salem qui exerçait une double fonction, qui était à la fois roi de Salem et qui était aussi sacrificateur. Mais l'Épître aux Hébreux nous dit que notre Seigneur est un sacrificateur à la manière de Melchisédek, donc il était à la fois roi et sacrificateur. Mais plus loin, pour regarder les particularités du sacerdoce de Jésus comparativement aux autres sacrificateurs qui l'ont précédé, l'Épître aux Hébreux, dans le chapitre 7, les versets 26 et 27, nous donne plus de détails. Ce qu'ils nous dit, c'est que Jésus, contrairement aux autres sacrificateurs qui étaient des pécheurs, mais lui, il n'a pas commis de péché. Il était innocent et sans tâche. Il est le plus élevé. Il est rentré pour offrir un sacrifice différent de ce que ses prédécesseurs ont sacrifié. Jésus était à la fois l'offrande et le sacrifice. Donc, trois points ici qu'il faut retenir. Jésus n'avait pas commis de péché. Jésus a présenté un sacrifice qui était lui-même. Et contrairement aux autres sacrificateurs qui devraient répéter la pratique pour que les péchés du peuple soient couverts, mais Jésus n'avait pas besoin de répéter ses sacrifices. Jésus l'a fait une fois pour toutes. Et ça, on peut dire amen. Combien c'est rassurant de savoir ce que Jésus a fait pour nous est complètement parfait. Il n'a rien manqué et on n'a rien à ajouter. L'accès qu'il nous a donné est total. Et il l'a fait une fois pour toutes. L'autre texte qui nous permet de comprendre cela, c'est toujours l'Épître aux Hébreux, le chapitre 9, les versets 11 jusqu'à 15. Il dit, et je vais lire pour vous, « Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et le plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Il est rentré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boeufs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boeufs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et purifie la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez Dieu vivant. » Donc vous voyez, c'est les mêmes choses qu'on a répétées. Jésus n'avait pas besoin de perpétrer cette pratique-là. Lui, son sang est pur. Il fait cela une fois pour toutes, pour nous. Et le texte dit qu'il a traversé les cieux. Ici, nous trouvons une analogie. Une analogie à ce que les sacrificateurs de l'Ancien Testament faisaient en traversant, en marchant dans le temple du parvis vers le lieu très saint. Alors que Jésus, lui, a fait ce parcours-là de manière verticale. Il était dans les cieux, il est descendu pour son sacerdoce, et puis il est remonté. La Bible dit encore qu'il est le Fils de Dieu. Cette appellation-là, la façon qu'il faut le comprendre, c'est que Jésus est le plus grand. Jésus, le Fils de Dieu, est Dieu. Jésus, comme grand souverain sacrificateur, est supérieur à tous les autres sacrificateurs qui l'ont précédé et à tous les autres sacrificateurs qui devraient venir après lui. L'appellation du Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Et du temps de Jésus, c'est cette difficulté-là que ses contemporains juifs avaient. Lorsqu'ils voulaient le lapider, Jésus disait, « J'ai accompli parmi vous plusieurs miracles pour lequel de ces miracles vous comptez me lapider? » La réponse était, « On ne veut pas vous lapider à cause des miracles, mais on veut vous lapider parce que vous vous prenez pour le Fils de Dieu. » Et plus loin, on lui a posé la question, « La manière dont vous parlez, est-ce que vous vous considérez comme plus grand que Abraham, notre père? » La réponse est, « Ben, ce que vous voyez présentement, Abraham aurait aimé vivre cela. Et avant qu'Abraham fût, je suis. » Pour faire la démonstration que lui, il est supérieur par rapport à ses contemporains. Pour faire la démonstration qu'il est Dieu. Et le texte nous dit qu'il est appelé le Fils de Dieu. Jésus est supérieur aux anges. Jésus est supérieur à ses contemporains. Jésus est supérieur à tous les autres sacrificateurs venus avant lui. La Bible nous dit que Moïse était le serviteur de Dieu. Et le mot serviteur, dans notre Bible, c'est le même thème qu'on trouve pour le mot esclave. Mais Jésus, lui, il est appelé Fils de Dieu. Aaron était grand sacrificateur selon la prescription de Moïse. Mais Jésus, lui, est sacrificateur selon le plan de Dieu. On avait besoin ces sacrificateurs-là pour tracer le chemin, pour paver le chemin, pour montrer le plus grand des sacrificateurs qui devrait venir. Mais Jésus est nettement supérieur à ces sacrificateurs-là. Le verset 15 nous dit, « Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Afin de nous venir en aide, notre sacrificateur a tout expérimenté, sauf le péché. Il a connu la disette, la fatigue, la famine. Et si on regarde le livre de ce verset dans le livre d'Ésaïe, où on nous dit que Jésus a été un homme éprouvé en toutes choses. Et Ésaïe le considère comme un homme de douleur habitué à la souffrance. Ces souffrances-là, notre sacrificateur les a connues afin de pouvoir mieux compatir avec nous dans nos moments de difficulté. Jésus a connu des moments de trahison. Rappelez-vous, parmi les 12 disciples qu'il a choisis, il y en a un qu'il a vendu. Probablement, on dirait, on ne voudrait plus être avec ces personnes-là. Mais Jésus, oui, a connu des moments de difficulté. Jésus a eu l'abandon de ses disciples. Pierre l'a renié. Et lorsqu'il a commencé son ministère, rappelez-vous, ce qu'il disait, nul n'est prophète en son pays. Pourquoi? Bien, parce que là où ils étaient, parmi les siens, on ne l'a pas reconnu. Et l'évangile de Jean nous le traduit très bien dans le premier chapitre, le verset 11. Lorsque Jean mentionne qu'elle est venue chez les siens, mais les siens ne l'ont pas reçue. Mais ce « elle », c'est Jésus. C'est la parole. C'est la lumière qui est venue dans ce monde pour éclairer le monde. Mais Jean nous dit, mais ils ne l'ont pas reçu. Il a été abandonné par les siens. Jésus a connu aussi la douleur du deuil. Son ami Lazare, lorsqu'il est décédé, Jésus pleura. La douleur du décès l'a profondément marqué. Même si la résurrection de Lazare devrait venir après, mais il a expérimenté cette douleur-là. Et c'est pour cela que le texte nous dit, c'est pas n'importe quel sacrificateur qu'on a. On a un sacrificateur qui est capable de compatir. Il a connu ces moments difficiles-là afin de pouvoir nous venir en aide. Et le texte, qui n'est pas biblique, mais qui démontre très bien la présence, la fidélité de notre Dieu à nos côtés lorsque nous connaissons les moments difficiles, c'est le texte de ce poète brésilien intitulé « Les pas sur le sable ». Probablement vous connaissez très bien ce texte où la personne disait les traces de pas de cette personne sur une plage étaient deux et la personne disait « Mais dans mes moments de difficulté, dans mes moments de douleur, je voyais seulement une trace. Lorsque tout va bien dans ma vie, je voyais deux traces. Tu étais à mes côtés, Seigneur. Mais là, pourquoi, tout de suite, c'est devenu difficile? Je voyais une trace de pas. » Et la réponse, c'était, mais dans ces moments de difficulté-là, tu ne pouvais pas marcher. Je te portais sur mes épaules. C'est ce genre de sacrificateur que nous avons. Un sacrificateur qui non seulement est capable de compatir avec nous, mais qui ne nous abandonne pas dans nos moments de difficulté. Et c'est pour cela que le texte nous dit qu'on doit nous rapprocher de lui afin de pouvoir obtenir le secours nécessaire, le secours dont nous avons besoin. Dans sa compassion, il va nous apporter, il va nous donner tout ce dont nous avons besoin. Parfois, nous connaissons des moments difficiles et on voudrait que Dieu intervienne pour changer la situation. On ne connaît pas toujours la volonté de Dieu. Est-ce que Dieu est capable de changer la situation et de nous épargner certaines souffrances? La réponse est tout à fait oui. Est-ce qu'il va toujours le faire? La réponse lui appartient. Pourquoi? Parce que Dieu nous permet de connaître des fois des moments difficiles, tout simplement pour que son nom soit glorifié. Prenons la situation de Daniel. Daniel dans la fosse aux lions. Est-ce que Daniel avait besoin d'expérimenter un petit séjour dans la fosse avec les lions? Non. Probablement, si on me demande est-ce que je veux aller faire un séjour, la réponse serait non. Mais Dieu l'a permis. Pourquoi? Parce que ce roi avait besoin d'entendre ce témoignage-là. Ce témoignage qu'il y a un Dieu qui est capable de fermer la gueule des lions lorsque son serviteur est dans la fosse avec le lion. Et c'est pour cela qu'on doit avoir la foi lorsqu'on passe par nos moments difficiles et de dire que le Dieu que nous connaissons, ce sacrificateur-là, qui est capable de compatir, qui a expérimenté des souffrances pour nous, ne va pas nous abandonner. Il va nous accompagner. Nous trouvons une situation pareille avec Sadrach, Meshach et Abednego. Lorsque ces jeunes hommes ont été jetés dans la fournaise ardente, est-ce qu'ils avaient besoin un séjour dans la fournaise? La réponse est non. Qui aimerait expérimenter la souffrance de la fournaise? Personne. Et la réponse de ces jeunes hommes-là ont été, on ne peut plus, pertinent. Le roi disait, je veux voir maintenant quel Dieu qui va vous délivrer de ma main. Mais la réponse était, Dieu est capable de nous délivrer. Mais s'il ne nous délivre pas, mais tu dois savoir, ô roi, nous n'allons pas adorer l'idole que vous avez fait confectionner. Donc ça a été une réponse excellente. Et le roi a pu expérimenter également la grandeur du Dieu de ces hommes-là. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient plus trois, mais ils étaient quatre. Encore, la fidélité de notre Dieu pour accompagner ses enfants lorsqu'ils passent par un moment difficile. Alors oui, nous avons un sacrificateur qui est capable de compatir. Nous avons un sacrificateur qui a connu ces moments difficiles-là pour nous garantir, pour nous faire comprendre qu'il est avec nous dans ces moments difficiles. Le plus important, c'était de changer notre destinée. Le plus important, c'était de pardonner nos péchés. Mais il nous dit, par-dessus tout cela, vous avez accès au trône de la grâce. Approchez-vous pour être secouru. Qu'est-ce qui pourrait vous empêcher de vous approcher? Probablement, vous allez dire, j'ai la culpabilité dans mon cœur. Probablement, le péché. Probablement, c'est la honte qui vous empêche de vous approcher. Mais rappelez-vous d'une chose. Dans l'Ancien Testament, lors de la fête d'expiation, le peuple était dans la cour. Le peuple était rassemblé justement parce que le peuple savait qu'ils avaient commis des péchés. Ils étaient là pour recevoir le pardon, pour que les péchés soient couverts suite à l'intervention du grand sacrificateur. Alors mon exhortation pour vous ce soir, si vous pensez avoir commis quelques péchés que ce soit, ne vous privez pas de ce rapprochement-là. Au contraire, l'accès est fait pour cela. La Bible dit, si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner. C'est l'accès que notre sacrificateur nous donne. Si le sang des animaux, la cendre des vaches, était capable de purifier la chair, à combien plus forte raison le sang de notre sacrificateur Jésus qui est esprit est capable de faire plus que ça. Alors mes frères, mes sœurs, le message c'est de ne pas vous priver de ce rapprochement. Ne laissez ni la culpabilité ni le péché vous priver de cet accès-là. L'accès vous est donné 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Par le passé, le peuple devrait attendre un an. Mais aujourd'hui, notre sacrificateur a fait une action pour toutes. À chaque fois que vous voulez vous présenter, l'accès va être disponible. Et il vous dit de vous rapprocher. La vie du chrétien, malheureusement, n'est pas toujours un boulevard pavé de roses. Ce n'est pas toujours une fleuve tranquille. Par moments, on va connaître des difficultés. Mais une chose est sûre, ces difficultés, on a à connaître, certainement, le secours sera aussi disponible si nous décidons de nous approcher. Amen. Alors oui, la parole de notre Seigneur est la vérité. S'il nous exhorte, s'il nous dit que l'accès est disponible, s'il nous dit de nous rapprocher de lui, c'est qu'il veut nous donner son secours. Ne nous privons surtout pas. Et brièvement, avant de terminer, on va voir quelques récits, comme je vous l'avais dit. Marc chapitre 9, les versets 21 et 23 que je vais lire pour vous, mais nous trouvons ce récit qui commence depuis le verset 9, le chapitre 9, verset 14 jusqu'au verset 27. Jésus qui parle à un père, Jésus demanda au père de l'enfant, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ?»« Depuis son jeune âge. Mais, si tu peux quelque chose, viens à notre aide. Aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, crois seulement, tout est possible. » Ici, le texte, c'est un père qui s'est présenté à Jésus parce que son enfant était possédé d'un esprit sourd-muet. Et le texte nous dit, lorsque cet esprit agité dans la vie de l'enfant, il a tout fait pour essayer de lui enlever la vie. Il lui jetait dans le feu, dans l'eau. Mais une chance que ce n'est pas arrivé. Le Père s'est approché de Jésus pour trouver une solution. En demandant à Jésus, « Si tu peux, fais quelque chose. » Et Jésus lui a dit, « Si tu peux, je ne fonctionne pas avec « si tu peux, moi. » Je fonctionne avec la foi. Alors, si tu crois, ton enfant sera guéri. » Et au Père de s'écrier, « Je crois, viens au secours de mon incrédulité. » Et l'enfant a été guéri. Encore un exemple pour nous que notre sacrificateur veut nous aider dans nos moments de faiblesse, dans nos moments de difficulté. Mais il faut nous rapprocher de lui. Et Jésus a parlé à cet esprit-là pour lui demander de sortir de l'enfant. Et le mauvais esprit ne pouvait qu'obéir puisqu'il avait devant lui le Dieu créateur qui a fait toutes choses, le Dieu qui a plein pouvoir sur toutes choses. Amen. L'autre exemple qu'on peut voir aussi, c'est l'officier du roi qui s'est présenté à Jésus parce que, encore une fois, on voit un enfant malade. Et on trouve ce texte dans l'évangile de Jean, le chapitre 4, les versets 46 à 54. Le verset 49, l'officier lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils vit. » L'homme crut la parole que Jésus lui avait dite et s'en alla. Ici, l'enfant malade n'était pas présent. Le premier récit qu'on a vu, l'enfant malade était là, Jésus a parlé directement. Mais cet officier, dans son plan à lui, c'était que Jésus aille chez lui pour guérir l'enfant. Mais Jésus ne s'est pas déplacé. Va, ton Fils vit. Dans nos moments de difficulté, est-ce que nous voulons imposer notre façon de faire à notre sacrificateur, à notre Dieu? Ou est-ce que nous allons lui faire confiance? Viens chez moi, viens intervenir avant que mon fils meure. Va, ton fils. Le Père a pris au mot la parole de Jésus. Puisque tu le dis, il vit. Moi, j'aurais aimé que tu ailles. Mais sur ce que tu dis, j'ai la foi que mon fils va vivre. Il s'est en allé. Nous avons besoin de croire aux paroles de notre sacrificateur. Ce qu'il dit est vrai. Il dit qu'il ne nous abandonnera jamais. Il dit que le rendez-vous qu'il nous donne, ce n'est pas au beau milieu du fleuve, parce que nous allons faire naufrage, mais il dit qu'il nous attend de l'autre bord. Alors le vent peut souffler, l'eau peut rentrer dans la barque, mais j'ai la foi, j'ai la ferme conviction que le rendez-vous avec mon sacrificateur, c'est de l'autre côté. Alors je vais me rendre de l'autre côté. Je ne sais pas comment je vais. Est-ce que j'irai à la nage? Est-ce que, ma barque qui était remplie d'eau va se transformer tout de suite en yacht pour que j'arrive de l'autre côté? Mais une chose est certaine, le rendez-vous avec mon maître est de l'autre côté. Il a dit qu'il me donne le rendez-vous de l'autre côté. J'y serai. Par n'importe quel moyen que ce soit. Et c'est ça, avoir la foi dans la parole de notre Dieu. Et c'est pour cela qu'on voit ce Père qui a pris au mot la parole de notre Seigneur. Et effectivement, l'enfant avait la vie sauve. Parce que la parole de notre Seigneur, la parole de notre grand sacrificateur est certaine. Et oui et amen. Le dernier texte que j'aimerais considérer avec vous ce soir, c'est un autre texte que vous connaissez très bien aussi, qui se trouve dans l'évangile de Marc chapitre 5, les versets 35 et 36, mais une histoire qui a commencé au verset 21 jusqu'au verset 43. La fille de Jairus. Jairus s'est présenté pour demander à ce que Jésus se présente pour guérir sa fille malade. Et comble de malheur, en chemin, on a annoncé à Jairus que arrêtez de portionner le maître parce que ta fille, elle est morte. Il ne faut pas déranger Jésus parce que le mal est déjà fait. Comme s'il y a une situation que Jésus ne pouvait pas renverser. Jésus s'est présenté et il a ressuscité la fille, même si elle était déjà morte. D'où mon message pour vous ce soir, les moments difficiles que vous connaissez, même si la situation est déjà, aux yeux de plusieurs, irrémédiable, mais nous serons un Dieu qui est capable de renverser les situations. Si vous connaissez des moments difficiles et vous voyez que c'est le comble, c'est le pire de tout, sachez une chose, Dieu est fidèle au même titre qu'il a accompagné ses serviteurs, que ce soit dans la fosse au lion, que ce soit dans la fournaise, il va être à vos côtés. Dieu va être avec vous. Et si la situation doit être renversée, il a le pouvoir pour renverser la situation comme il l'a fait pour la fille de Jairus. Nous trouvons également dans les évangiles une situation d'une femme qui était atteinte d'une perte de sang. Cette femme disait en elle-même, après avoir tout dépensé, et sa situation allait en empirant, « Si j'arrivais à toucher le bord de ses vêtements, eh bien, je suis certain que je serais guéri. » Alors qu'elle n'avait pas le droit d'être en foule, selon les écrits de Lévitique, mais elle a pris la chance. Elle s'est faufilée dans la foule jusqu'à toucher le bord des vêtements de Jésus. Et effectivement, elle a été guérie. Elle n'a pas demandé à Jésus de la guérir. Elle n'a pas invité quelqu'un à aller chercher Jésus. Mais elle avait cette foi-là. Si j'arrive tout simplement à me rapprocher et à toucher le bord de sa vêtement. Ce soir, c'est la même invitation que j'ai fait à chacun d'entre nous. Si on connaît un moment difficile, d'agir notre foi et d'aller vers notre sacrificateur, de nous approcher de lui et de toucher ses vêtements, sachant qu'il est capable de guérir, de renverser les situations et de nous donner le secours nécessaire. C'est ça notre message de ce soir. S'il y a une chose que j'aimerais que vous reteniez vraiment ce soir, c'est de dire, arrêtons d'essayer par nos propres moyens. Nous avons plusieurs exemples, que ce soit dans nos propres vies, mais aussi à travers la Bible, que cela ne marche pas. Notre texte ne nous dit pas de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour nous démêler, pour nous dépêtrir de nos situations. Au contraire, le texte dit, nous avons un grand sacrificateur qui est capable de compatir, qui a fait tout ce chemin-là pour nous et qui nous donne accès au trône de la grâce. Ce qui nous est demandé, c'est de nous approcher de lui pour avoir le secours nécessaire. Je sais, je l'ai déjà fait. Probablement vous, non. Lorsqu'on fait face à des difficultés, à des problèmes, on essaie à gauche et à droite. On est humain, on est un homme, on est orgueilleux, on veut sortir par nos propres moyens. Et souvent, tout ce que nous faisons, c'est d'empirer la situation. Alors aujourd'hui, on a une solution toute simple. Comme on a l'habitude de dire des fois, c'est trop beau pour être vrai, mais c'est vrai, parce que c'est la parole de Dieu. Arrêtons d'essayer par nos propres moyens. On a un accès. On a un accès au trône de grâce. La miséricorde, elle est disponible. Le pardon, elle est disponible. Et peu importe les difficultés que nous connaissons, le secours est disponible. Amen. Est-ce que c'est un bon message? Est-ce que ça vous réconforte? Que notre Dieu puisse prendre le contrôle. Que notre Dieu puisse consoler nos cœurs. Nous apporter tout le réconfort dont nous avons besoin. Mais faisons notre part. Dieu est là, il nous tend la main. Et il nous dit tout ce qu'il a fait. Ne pensez pas que vous êtes pris tout seul dans vos problèmes. Mais la Bible nous dit, notre sacrificateur a expérimenté les mêmes choses que nous connaissons, les mêmes difficultés, à la seule différence que lui, il n'a jamais péché. Alors faisons-lui confiance. Amen. Vous pouvez vous mettre debout, nous allons prier pour terminer. Père Céleste, nous te bénissons encore une fois et nous te disons merci pour l'opportunité que tu nous as donnée de pouvoir partager cette parole. Père, je reconnais que toi, tu as la puissance nécessaire pour ramener encore cette méditation encore plus loin dans nos pensées, plus loin, Seigneur Dieu, dans nos esprits. Moi-même, Seigneur, j'ai été tout simplement à l'écoute de ta parole. Tu connais, ô Dieu, chaque personne qui serait présente ici dans cette salle et même des personnes qui pourraient nous suivre à distance ou encore des personnes qui pourront écouter en rediffusé cet enseignement. Mais tout ce que nous te demandons, c'est de faire en sorte que ta parole puisse apporter, Seigneur Dieu. Alléluia. Le message, ton message, Seigneur, de restaurer, Papa, et de donner le secours à ceux qui en ont besoin. Nous te disons merci, Seigneur, parce que nous savons que c'est toi qui es à l'œuvre. Nous savons que c'est toi qui va opérer ces choses dans nos vies. Et nous te disons tout simplement merci. Merci, Seigneur Dieu, pour ton sacrifice. Merci pour ton sang versé, ce sang qui est efficace et qui parle plus que le sang des animaux. Merci pour ton sacerdoce. Merci pour cet accès que tu nous donnes. Et aide-nous, Seigneur, à ne pas avoir honte de nous approcher de toi, mais à avoir une bonne conscience. Si péché il y a, que nous soyons, Seigneur Dieu, en mesure de les confesser et de faire en sorte que nous obtenions pardon qu'il y a en toi, Seigneur. Je remets ton peuple entre tes mains. Puisses-tu le bénir. Que ta grâce, Seigneur Dieu, soit déposée sur lui. Et garde-nous, Seigneur Dieu, dans notre chemin de retour. Nous te prions par le nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Merci et rentrez dans la paix de Dieu. Amen.